CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur notre compte LinkedIn CFO Radio. TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, mes acolytes, Laurent Lamoureux, associé de BDO France, 5e réseau mondial d'audit et de conseil, Yann Alossery, responsable grand compte chez G-Collect, et Olivier de Gaetano, directeur général Europe de l'Ouest de Tagetik. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler logement, puisque nous recevons Valérie Perrier, DAF de Crédit Logement. Bonjour Valérie.
Bonjour.
C'est votre deuxième passage dans cette émission. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau. Je le rappelle, vous êtes alsacienne d'origine, vous êtes ingénieure. Vous avez fait 8 ans de consulting chez EY, qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs à l'époque. L'audit, ça vous a plu visiblement ?
Oui, tout à fait. Ça devait être un troisième cycle, comme pour beaucoup, en fait. Et au bout de 8 ans, j'étais encore là et à me demander si j'allais continuer ou pas.
Qu'est-ce qui plaît, finalement, dans l'audit ? C'est quoi ? C'est la diversité des dossiers ?
Alors moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était la diversité des dossiers, la diversité des secteurs, rencontrer plein de monde et vraiment être dans une optique d'aider les gens, d'aider les entreprises, en revenant de façon périodique pour voir un peu ce qu'on avait pu mettre en place et avoir ce suivi continu. J'ai des clients au bout de 8 ans que je suivais toujours et au moment de mon départ, certains m'ont envoyé des messages très émouvants pour me dire qu'ils m'avaient vu grandir et que les auditeurs, c'était comme les limaces pour les jardiniers. On ne sait pas à quoi ça sert, mais on sait qu'on en a besoin.
Ah, c'est une jolie image, en tout cas. Salut les limaces. Vous êtes, en devenant senior manager, vous n'êtes pas posé la question de savoir si vous alliez devenir associé ou pas ?
Si, si, tout à fait. C'est vraiment un moment clé où on se dit, est-ce que je reste pour être associé ? Et finalement, j'ai préféré arrêter pour laisser la place aux autres, parce que tout simplement, je me projetais pas 30 ans après en étant encore associée en cabinet d'audit. Et plus on monte, moins finalement on a d'opérationnel et de contact client. Et c'est ce qui me plaisait le plus. Donc, c'est ce qui aussi me déplaisait de plus en plus au fur et à mesure que je gravissais les échelons.
Ça pouvait devenir frustrant, en fait.
Exactement.
Et je comprends tout à fait. Alors, Crédit Logement, c'est quoi ? Parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui connaissent. Dites-nous un peu.
Alors, Crédit Logement, c'est un institut, une entreprise franco-française qui est privée. Elle est détenue par les grands groupes bancaires français et qui est un peu un animal très spécifique puisqu'on garantit les prêts immobiliers auprès des banques. Donc, nos clients sont les banques. On garantit les banques face aux impayés des emprunteurs et des particuliers qui souscrivent des prêts immobiliers. C'est une alternative à l'hypothèque où là, c'est le bien, ce n'est pas le bien qui est garanti, mais c'est vraiment la solvabilité de l'emprunteur.
Combien de salariés aujourd'hui ?
330.
Laurent ?
Valérie, on va se tutoyer parce qu'on s'est rencontrés longtemps, et chez Arthur et chez EY. Valérie, tu es responsable financière et responsable ESG.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas la meilleure formule, finalement, pour nos auditeurs directeurs financiers ? Est-ce que quand on met la responsabilité ESG dans les mains du directeur financier, est-ce que ce n'est pas la garantie, la meilleure formule pour avoir la vision la plus transverse et coordonner le plus d'acteurs dans l'entreprise ?
Je suis convaincue que c'est la meilleure formule. Je pense qu'au départ, c'était un choix un peu de circonstance, parce que j'ai toujours été sensible à ces sujets-là. J'ai toujours fait le rapport RSE à l'époque où on devait en faire un et c'était très light. Et finalement, en 2020-2021, quand on a défini des piliers pour notre entreprise et qu'il a fallu quelqu'un pour l'incarner, j'ai été un peu le choix naturel. Mais c'était pas du fait de mon rôle de directrice financière, c'était plus, je l'étais pas à l'époque en plus, c'était plus du fait de ma personnalité et de mon appétence sur ces sujets. Mais je pense effectivement que c'est le meilleur choix parce que les problématiques ESG peuvent sembler coûteuses, peuvent sembler d'une autre planète par rapport aux enjeux financiers, alors qu'en fait, ils vont être drivés par des enjeux financiers, des enjeux stratégiques et des enjeux de réputation. Et un directeur financier a conscience de tous ces enjeux-là. Donc, il peut, au contraire, s'impliquer encore plus et embarquer l'entreprise dans tous ces sujets.
Et du coup, lorsqu'on est le responsable naturel d'un projet comme ça, est-ce qu'on n'a pas tout sur les épaules et on n'est pas un peu tout seul ?
Alors ça, c'est une vraie bonne question. 330 employés, c'est un statut assez intermédiaire. On a des encours et des chiffres qui sont dignes des plus grandes entreprises, mais avec un effectif très limité. Donc effectivement, on a tendance à être un peu seul. Mais j'ai la chance d'avoir quand même une direction générale qui a été convaincue dès le départ, qui me soutient. Et notre stratégie n'a pas été de faire savoir et de communiquer à outrance sur des aspects qui pouvaient paraître un peu fictifs, je dirais, et uniquement marketing. Mais au contraire, en fait, on n'a pas communiqué du tout au début et on a simplement communiqué en interne pour embarquer les collaborateurs. Donc, j'ai quand même la chance d'avoir une entreprise qui est moteur sur ces sujets-là, avec des collaborateurs qui sont très sensibles à ces sujets-là, qui ont envie de s'impliquer et donc beaucoup de propositions d'aide de la part des salariés de Crédit Logement.
Olivier.
Alors Valérie, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous définissez vos enjeux, comment vous définissez des priorités lorsqu'on navigue dans la forêt des normes réglementaires, l'explosion des data et le régalien, fiscalité, trésor, production des chiffres. Comment vous hiérarchisez ?
Alors, Crédit Logement, une double activité, c'est-à-dire que on est né de la volonté de contribuer à la solidité du marché immobilier et à l'accession à la propriété. Donc déjà, on a tous ces enjeux, je dirais, sociaux, sociétaux, qui sont couverts par notre produit, en fait, la garantie des financières des prêts immobiliers. On définit nos contraintes par rapport au réglementaire, certes, mais le réglementaire nous donne un cadre au sein duquel on peut naviguer. Quand on a des réglementations comme CSRD, par exemple, qui se mettent en place pour normer toutes les problématiques ESG ou des réglementations baloises sur les fonds propres, c'est finalement pour s'assurer qu'on ne part pas dans toutes les directions et qu'on reste les pieds sur terre et posé. Mais après, à l'intérieur, on a toute la marge de manœuvre pour mettre en place des sujets et des enjeux. La partie fiscalité, comptabilité, publication des états financiers, c'est de l'opérationnel quotidien. Nous, notre enjeu, il est plutôt sur les fonctions régaliennes, de préserver notre fonds mutuel de garantie qui sert à récolter toutes les contributions des emprunteurs pour qu'on puisse répondre à nos enjeux de garantie et être là face aux impayés pour couvrir tous les risques. Donc, notre gestion de la trésorerie, elle est relativement simple. C'est une appétence au risque extrêmement faible. On n'est pas là pour spéculer, mais on est là pour garantir qu'on pourra répondre à tous les risques. Donc, finalement, tout s'imbrique assez bien. Aussi bien la réglementation que les enjeux purement produits, je dirais, de Crédit Logement et les enjeux financiers que je peux avoir.
Yann.
Alors, le marché de l'immobilier est un peu chahuté en ce moment et je pense surtout aux primo-accédants et aux jeunes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez mis des plans spécifiques ? Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce qu'il y a un recul ? Comment on accompagne et on aide cette population sensible ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Crédit Logement intervient en deuxième rideau de façon indépendante par rapport aux banques. Donc, les banques reçoivent les emprunteurs, leur font les propositions par rapport à leur plan de financement. Et nous, derrière, on va accorder ou non notre garantie. Ce qu'on peut voir par rapport au marché actuellement, c'est qu'on a une baisse depuis un an et demi, deux ans, de l'ordre de 50% des crédits octroyés. Et effectivement, ça a quand même redessiné le profil des emprunteurs. Les primo-accédants, typiquement, sont les plus touchés, puisqu'il y a eu énormément de contraintes qui ont été mises sur les conditions d'apport, notamment. Les primo-accédants, de façon logique, ne sont pas ceux qui ont le plus gros taux d'apport. Ce qu'on regarde, nous, c'est la solvabilité. Donc, on ne peut pas mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les primo-accédants. On a une grille d'analyse de risque qui a pour objectif de privilégier les emprunteurs face aux impayés. Donc finalement, c'est le projet de l'emprunteur, quel qu'il soit, qui va s'ajuster aux conditions de taux et au prix des biens immobiliers. Ce qu'on voit très clairement, c'est que les durées se sont allongées. Alors, on ne va pas au-delà de 25 ans, mais on a la majorité de la production qui se situe entre 20 et 25 ans actuellement pour les crédits immobiliers. D'une part, c'est la durée qui joue. D'autre part, c'est aussi le montant du prêt immobilier et l'ampleur du projet. Les emprunteurs sont quand même assez rationnels et calibrent leur projet par rapport à leurs moyens. Donc, ils vont réduire en surface ou ils vont s'éloigner du centre-ville ou ils vont faire des prêts moins importants.
Est-ce qu'il y a quand même une embellie? Vous voyez une embellie à venir? Ou est-ce qu'on a l'impression, quand on vous écoute, que c'est pas très gai quand même?
Non, alors c'est, le passé n'est pas très gai, mais je suis plutôt de nature optimiste, ouais. Déjà. Oui, il y a une embellie. On voit bien que les taux sur les marchés financiers se sont quand même stabilisés, commencent à baisser. Tout le monde a entendu les échéances à venir de baisse de taux. Donc déjà, le niveau des taux de crédit immobilier semble avoir atteint un plafond et les taux commencent à redescendre. Il y a une très, très forte hausse en un an, puisque le taux moyen a pris 190 points de base. Et là, par contre, depuis le début de l'année, on voit que le taux moyen des crédits immobiliers est en train de baisser. Ça, c'est la première embellie pour les emprunteurs. La deuxième embellie concerne la baisse des biens à vendre, puisque c'est quand même un paramètre qui était très attendu de la part de tout le monde, sauf des vendeurs. Mais les prix commencent à baisser. Et depuis l'été dernier, on voit bien qu'il y a une baisse des prix, en particulier à Paris et dans certains arrondissements où la baisse peut atteindre 9%.
Bon, on croise les doigts. Valérie, pour terminer, la dernière fois qu'on s'était vu, vous preniez des cours de cuisine. Je crois que vous avez pris maintenant des cours de pâtisserie.
Voilà.
Votre pâtisserie préférée, votre...
La tarte tatin.
La tarte tatin, c'est quoi le secret?
Le temps. Ouais. Mais en fait, c'est le secret pour toutes les pâtisseries. Et moi, j'adore cuisiner des viennoiseries, des pains et des pâtisseries. Mais c'est vrai qu'il faut du temps. Et finalement, c'est pas si complexe. Il suffit juste d'avoir un esprit cartésien. Vu que je suis ingénieure, ça tombe bien. Suivre la recette.
Merci beaucoup, Valérie. Vous êtes formidable. Merci également à vous, Laurent, Yann et Olivier. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain. 14h précise évidemment pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.